Bonsoir à tous. Une lumière un peu d'aquarium, mais bon, nous allons faire avec. Nous essaierons de faire mieux pour, j'allais dire, la dernière rencontre, mais la dernière rencontre sera au temple de l'oratoire, où la salle est quand même un peu plus chaleureuse. Merci d'être là, merci à Marc Pernaud de nous rejoindre ici pour cette avant-dernière session déjà de notre périple à travers les textes bibliques pour la quatrième année consécutive, Père, Mère, Fils et Fille. Et aujourd'hui, nous mettons la barre assez haut avec des textes qui sont des textes fondateurs de l'intelligence de la foi chrétienne, de la condition du disciple du Christ qui essaie d'éclairer sa foi et d'entrer dans le mouvement de la théologie. La théologie, ça n'est pas que des spéculations conceptuelles, formalistes, telles que peut-être la pensée médiévale a pu le laisser croire, mais c'est quelque chose de vital, la théologie. Nous sommes des êtres pensants, nous avons toujours besoin de nourrir notre foi et de l'abreuver à des sources aussi prestigieuses que les textes de Paul ou l'épître aux Hébreux. Alors nous sommes aussi au cœur de la Semaine Sainte. Nos deux églises s'apprêtent à entrer dans la contemplation du mystère pascal, dans le silence, la ferveur, le recueillement, une certaine forme de joie aussi, secrète, intime, et donc à entrer dans le triduum pascal, qui est comme le résumé, le miroir de condensation de l'histoire du salut. Alors c'est précisément sur la question du salut que nous allons nous pencher un peu aujourd'hui. Nous le disons, par le baptême, nous sommes plongés dans le mystère pascal, nous sommes associés, incorporés au Christ, définitivement, pour revivre avec lui, pour passer les eaux de la mort et triompher du péché, du mal, de l'iniquité. Alors, la question du salut, c'est une question qui n'est pas homogène dans l'histoire de la pensée chrétienne. D'abord, il faut être sauvé de quelque chose. Moi, j'enseigne à des adolescents. L'adolescent est souvent dans la toute-puissance du printemps de la vie. Et donc, la question d'être sauvé, sauvé de quoi ? Bien que mon établissement vient de connaître, comme je le disais à Marc, un événement particulièrement dramatique que j'ai évoqué tout à l'heure à la messe, pour ceux qui y étaient, un suicide de jeunes, et c'est toujours abominable et douloureux, et ça nous plonge au cœur de la Semaine Sainte dans l'incompréhension et dans la révolte. Et bien sûr, nous voyons que la question du salut, la question d'être sauvé, se pose à tous les âges de la vie. Sauvé de quoi ? Évidemment, la nature humaine, la condition humaine, a toujours été exposée à la fragilité, a toujours été exposée aux vicissitudes de la vie. Mais dans l'Antiquité, au moment où la révélation chrétienne apparaît, dans l'Antiquité, il y a des réponses qui sont proposées par des sagesses. Vous connaissez au moins deux grands courants de sagesse, qui sont le stoïcisme et l'épicurisme. Et au fond, ces deux courants ne sont pas opposés, ils peuvent se combiner. Montaigne, à la Renaissance, a pu combiner les deux sagesses. Il s'agit de, finalement, au fond, de consentir à ce qu'il y a de nécessaire dans le déroulement des événements et à se résigner à ce qui ne dépend pas directement de nous et donc, par nos propres forces spirituelles, à trouver le repos, la quiétude, l'ataraxie, l'absence de trouble, l'apathie, comme disent les épicuriens, c'est-à-dire l'absence de souffrance. Donc ça, c'est la sagesse antique, c'est la sagesse dans laquelle baignent les élites au temps de Jésus, même les élites juives qui sont un peu hellénisées. La quête du souverain bien, la vie bonne, qu'est-ce que bien vivre dans une condition humaine qui est exposée évidemment à la mort et aux épreuves. Alors évidemment, avec la montée de la conscience personnelle, la mort est de plus en plus dramatisée. Et non seulement la mort ultime, mais les petites morts de la vie, les épreuves, les deuils, ce que les philosophes appellent la finitude, tout ce qui finit. Il y a des pages à tourner dans toute existence, il faut apprendre à tourner ces pages. Et donc nous prenons conscience que, comme les hommes de l'époque de Jésus, que l'existence s'inscrit sous une forme de perte. Nous avons à perdre des choses. Et de la perte à la perdition, il n'y a pas loin. Et l'homme peut se sentir vite en perdition, en naufrage, en déréliction, et il a besoin d'un sauveur. Et les historiens des religions font souvent du christianisme une religion du salut, parmi d'autres. Il y en avait beaucoup, des religions orientales qui sont des religions du salut personnel, et plus seulement du salut collectif, peut-être comme le judaïsme, mais du salut personnel. Alors, ce salut, nous allons précisément ce soir voir que la fine pointe de la réflexion chrétienne, de l'approfondissement chrétien, est vue comme un acte de filiation. Alors, c'est un peu le thème de l'année, mais ce soir, nous sommes au cœur de cette réflexion et de l'explicitation de cette filiation chez saint Paul. Il s'agit d'un engendrement, d'une renaissance et d'une redécouverte, d'une réappropriation de cette filiation qui n'est plus seulement une filiation biologique dans une histoire humaine, avec une traçabilité, avec un lignage, avec un héritage, un patrimoine biologique ou culturel, mais il s'agit ici d'une filiation d'un autre ordre. Alors, pourquoi le christianisme a privilégié cette notion de filiation, qui n'est pas un mot employé à la légère? C'est ce que nous allons voir ce soir. Parce qu'après tout, vous le savez, il y a d'autres mots pour parler du salut en christianisme. Michel Quesnel, notre confrère de l'oratoire, a parlé de sagesse chrétienne. La sagesse, ce n'est pas seulement les sagesses épicuriennes et stoïciennes, il y a aussi une sagesse chrétienne qui n'est pas tout à fait la sagesse du monde, puisque vous le savez, à partir de l'Épître aux Corinthiens, saint Paul le dit, la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. La croix n'entre pas dans la sagesse des hommes. En revanche, dans la sagesse de Dieu, elle a une place. Donc le mot de sagesse aurait pu être retenu ce soir. Le mot de connaissance, et c'est la grande tentation dans l'Antiquité, voir le salut comme une connaissance intellectuelle, ce qu'on appelle la gnose. Les premiers chrétiens vont devoir se battre contre cette tentation du salut élitiste, la gnose, c'est-à-dire que la connaissance, comme Faust, vous savez, va permettre de se sauver. Et les chrétiens le disent, non. Et c'est toujours une tentation pour nous-mêmes, d'ailleurs, de croire peut-être que la théologie va nous sauver ou toute autre forme de connaissance. Il y a le mot de rédemption, bien sûr, c'est-à-dire de rachat, de repêchage, qui est aussi un mot qui désigne le salut et que les chrétiens ont surabondamment utilisé. Le mot de révélation, c'est-à-dire de dévoilement, comme dans les cultes à mystère, est aussi un mot associé au salut. Le terme d'illumination que l'on utilise dans le baptême. Un néophyte est un illuminato, un illuminé de la lumière du cierge pascal. Nous aurions pu évoquer d'autres formes, d'autres modalités du salut. Chez les platoniciens, c'est l'âme qui se détache du corps. Et vous le savez, nos églises ont souvent été trop platoniciennes en évoquant ce dualisme. Le corps est un tombeau qui va à sa ruine, mais l'âme est appelé à survivre dans un au-delà, ce qui n'est pas totalement chrétien, ce qui n'est pas totalement dans le mystère de l'incarnation. Nous aurions pu parler, et là ça n'est pas chrétien, de la transmigration des âmes, la métempsychose, la réincarnation. Donc tous ces mots sont des mots qui tissent une sorte de constellation à l'époque de Jésus. Alors il y a des mots, bien sûr. Le mot de guérison, le Christ est un guérisseur, un thaumaturge. Et le mot de justification, qui a pu d'ailleurs diviser nos églises, qu'est-ce qui rend juste, qu'est-ce qui rend juste devant Dieu? Or, c'est le terme de filiation que nous choisissons ce soir, mais ce terme de filiation, il faut bien avoir présent autour toute cette constellation d'autres mots qui sont comme des tentatives, des percées de l'intelligence humaine pour saisir le salut, que la foi nous confirme et dont la foi nous dit la vérité. Mais entre la foi et la mise en mots, la formulation, vous le savez, il y a tout un espace qui est rendu libre pour des interprétations. Voilà, donc c'est cette filiation, cette recréation, cette nouvelle naissance, notre enracinement dans une origine à la fois plus lointaine et plus proche que celle de ceux qui nous ont engendrés, que nous allons essayer d'approcher ce soir.
Alors merci Jérôme pour cette introduction, oui, qui est bien intéressante, parce que c'est des notions qui ne sont pas du tout évidentes, d'autant moins évidentes que on baigne dedans depuis tellement toujours que on manque de se poser des questions là-dessus en fait. Or, je crois qu'il n'y a pas de mauvaise question dans ce domaine. La plus mauvaise attitude, c'est de ne pas s'en poser, peut-être. Alors, oui, le salut comme filiation, cela dit, je crois que chemin faisant, nous verrons que la chose est un peu complexe. Et je crois que c'est à cause de cette complexité, bon, qui est vite résolue quand même, qu'il y a eu beaucoup de disputes, j'allais dire, et de mauvaises compréhensions. Qu'est-ce qu'on entend par filiation ? En quoi est-ce que nous sommes fils, finalement, de Dieu ? Et il y a une double filiation. Il y a d'abord une adoption, on va la croiser dans ce livre des Romains, dans cette lettre aux Romains. Une adoption, et l'adoption, c'est par grâce, c'est-à-dire que Dieu, sans aucune notion de mérite ou sans aucune cause que ce qu'est Dieu lui-même, nous reconnaît comme son fils ou sa fille. Donc ça, c'est la grâce pure, par définition, c'est la grâce. Voilà, il y a vraiment... Il n'y a aucune bonne raison de nous considérer, pour Dieu, de nous considérer comme son enfant. Et il n'y a aucune raison que ce soit pour qu'il arrête de nous considérer comme son fils et sa fille. Alors, on n'a pas pu aller dans Romains 8 jusqu'à la fin, mais c'est bien ce que dit la fin de ce chapitre 8, vous savez, très connu, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, absolument rien, pas même les pires des fautes. Et quand Jésus-Christ nous dit que Dieu, que notre Père, voilà, nous aime, même quand nous sommes ses ennemis, que nous le persécutons, etc. Donc, je veux dire, c'est bien de ça dont il est question. Donc, c'est la première filiation, c'est l'adoption. Et ça, c'est complètement par grâce. Et l'adoption est une très bonne image. Car encore, quand dans un couple, tout d'un coup, il y a un enfant qui arrive, on peut se dire, on ne l'a pas choisi, on le prend comme il vient. Il faut finalement quand même l'adopter dans ce sens. Mais là, l'adoption, c'est vraiment par grâce. Il n'y a aucune raison objective de se dire, tiens, cet enfant, je vais l'adopter. C'est vraiment, on n'est pas obligé, on n'est jamais obligé. Donc, c'est vraiment par grâce, par amour. On va rencontrer aussi ce mot, nous sommes fils de l'amour de Dieu. C'est ce qui est dit du Christ dans cet hymne au Christ de Colossiens. Et la deuxième filiation, c'est un engendrement, effectivement. Alors là, l'engendrement, il demande une participation de l'homme, une ouverture à l'esprit. Quand il y a marqué esprit, là aussi, c'est un peu un faux ami, si vous voulez. C'est qu'on s'imagine quelque chose qui est de l'ordre de la pensée ou de je ne sais quoi. Non, l'esprit, c'est une mauvaise traduction pour parler du dynamisme créateur de Dieu, finalement, du souffle de Dieu, de quelque chose par lequel il donne la vie, quelque chose d'invisible comme cette présence de Dieu qui crée la vie là où il n'y avait que le chaos. Donc il s'agit de recevoir ce souffle pour que nous soyons engendrés par Dieu. Donc là, il y a une collaboration entre Dieu et l'homme, entre la grâce de Dieu qui envoie son esprit et l'homme qui, par la foi, accepte de participer à cet élan de création ou de le recevoir, d'en bénéficier. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus seulement fils ou filles par adoption, mais nous le devenons par un engendrement, par une genèse. Et donc, à ce moment-là, dans un certain sens, comme les enfants ressemblent à leurs parents, nous nous mettons progressivement à ressembler peut-être à Dieu, donc être un peu à son image. Mais cela, ça demande, oui, une sorte de oui, finalement. Alors ça, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans le prologue de Jean, dans les premiers versets, dans cette méditation absolument incroyable que donne Jean au début de son évangile. Il parle de voilà, de ce plan de salut comme une parole ou comme la lumière, la parole éternelle de Dieu qui se fait chair en Jésus-Christ. Cette parole ou cette lumière, nous dit Jean, elle illumine tout homme et on la refuse tous, plus ou moins, nous sommes tous dans l'entre-deux. Mais dans la mesure où nous recevons cette parole ou cette lumière, c'est bien d'ailleurs qu'il associe double image qui crée qui évite de trop réduire cette dimension. Mais celui qui accepte cette lumière ou cette parole, nous dit Jean, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir. Donc là, il s'agit bien d'une genèse de notre être comme enfant de Dieu, pas seulement enfant adopté par grâce, mais comme engendré par la foi, en acceptant, en vivant de cette grâce. Donc vous voyez, il y a deux dimensions de filiation finalement. Une qui est par la grâce seule, et une qui demande la participation de la foi, la participation de l'homme. Alors finalement, tu disais qu'il y a eu longtemps débat sur la justification. Ce débat maintenant a été, il y a eu des accords, entre les protestants les plus durs, c'est-à-dire les luthériens, et donc d'autant plus les réformés et l'Église catholique, sur cette question de la justification. Si je dis les plus durs, c'est parce que le nœud du problème entre Luther et l'Église catholique, et le pape en l'occurrence plutôt, c'était cette question de la justification par les indulgences. Est-ce qu'on accélère le salut, son salut personnel ou le salut d'une quelle personne qu'on aime et qui est décédée, en donnant des sous à l'Église? C'était réputé participer à notre salut éternel. Ce en quoi Luther a dit, mais écoutez, ça, c'est de la blague ce truc, c'est pas possible. On est sauvé par grâce. Alors effectivement, on est tous d'accord évidemment là-dessus. On est sauvé par grâce parce que c'est une adoption. Nous sommes fils et filles par adoption, donc il n'y a là rien à enlever ou à retrancher ou à ajouter. Nous sommes considérés par Dieu comme son enfant, sans condition, nous le resterons pour toujours, et cet amour, rien ne pourra le supprimer. Mais cette dimension d'engendrement, de recevoir l'Esprit, ça demande une participation de l'homme, et là on est tous d'accord, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est une question de salut, pas salut? Ben, un peu quand même, parce qu'en fait, on se laisse créer comme christique. Même si Dieu regarde en chacun de nous, finalement, son enfant, comme il regarde le Christ comme son enfant, ça n'empêche que nous pouvons devenir un peu christiques par cette participation. Donc, vous voyez, c'est un peu fin quand même. Il y a deux filiations, et à la limite, la première pourrait suffire. Car, à mon avis, si Dieu aime chacun de ses enfants et qu'il a le projet de nous garder pour l'éternité dans son cœur, si je puis dire, mais c'est un peu une façon de parler, bien entendu, parce que Dieu n'a pas plus de cœur que de main, mais bon, s'il nous garde dans son amour, pour dire, eh bien, voilà, s'il a le projet de nous sauver, il est assez puissant pour le faire, de toute façon. Et donc je crois que cet engendrement, c'est plus une question de timing ou d'agenda, si vous voulez, ou plus une question... ça vaut le coup de se laisser engendrer, même si l'adoption suffirait, parce que ça nous rend une vie extraordinairement plus profonde et plus belle, car nous participons à la nature même de Dieu, nous pouvons, ce qui est chose extraordinaire, faire le bien, alors que Paul, juste avant ce chapitre 8, incroyable chapitre 8, il dit, mais en fait, j'ai une notion du bien, finalement. Je voudrais faire le bien, mais je n'y arrive pas, car je suis prisonnier d'une logique interne à mon être qui fait que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et que le mal que je ne voulais pas faire, pense, c'est ça que je fais, et qui me délivrera de cette logique infernale. Et c'est là qu'il y a ce cri de louange, « Grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ, voilà, qui m'a délivré de cette logique de mort. » Et donc, oui, il y a de la joie à recevoir cet engendrement, cette deuxième filiation. Il y a une joie, du coup, à être capable de faire œuvre bonne, œuvre de vie. Alors, est-ce que c'est une recréation ou une résurrection? Moi, j'hésite parce que, dans ces mots, le mot même de résurrection, on a comme une idée de retour en arrière, si vous voulez. Alors, je crois que c'est une erreur, c'est une mauvaise traduction. Dans le grec, il n'y a pas marqué résurrection ou renaissance.
Relèvement, anastasis.
C'est se lever,
Il y a Anna qui est quand même un peu gênant parce que c'est un peu en arrière. Mais ça dépend, si on en fait un spatial ou
Égayro,
temporel.
Égayro, c'est plus le se réveiller.
Les deux images, c'est le, oui, c'est ça, le, l'éveil, le réveil et le relèvement.
Le réveil et, ouais. et le fait de se lever.
Mais c'est Anna au sens, effectivement, plus spatial que temporel.
C'est plus spatial c'est que temporel. Retour, ouais. Et le Égayro, c'est ça, il n'y a pas l'idée de retour en arrière. Et de toute façon, je crois qu'on est tous d'accord, la résurrection du Christ, ce n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas un bis que fait, vous savez, des fois le musicien, quand il a bien été applaudi, bon, il disparaît un peu, puis il revient un peu, il rejoue encore un morceau, puis pan, il disparaît. La résurrection du Christ, ce n'est pas un petit bis qu'il fait à la fin, parce qu'on l'a bien applaudi, si vous voulez. Ce n'est pas un retour en arrière, un retour au-delà de la mort, il refait un petit tour, tiens, coucou, je reviens, et puis je m'en vais. Ce n'est pas ça, c'est une vie autrement. C'est une vie autrement, et c'est là que ça nous concerne directement, c'est que cette vie autrement, elle concerne pas seulement notre vie future, elle concerne notre vie présente dans cet engendrement, finalement, dont on parle ici, je crois. Donc il s'agit, oui, plutôt d'une nouvelle naissance. C'est pas une deuxième fois la naissance première, c'est une naissance d'un autre ordre, en fait. Voilà.
La vie nouvelle.
Une vie nouvelle, une vie, une dimension supplémentaire de la vie qui est celle d'une participation à la vie même de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. Alors, c'est déjà compliqué, donc il y a deux filiations pour nous. Là où c'est plus compliqué aussi, c'est que quand on parle du Fils, voilà, nous sommes fils, fils par le Fils, ou dans et par le Fils. Le Fils, c'est de quoi on parle ? De qui on parle ? Eh bien, c'est pas si clair que ça. Parce que si vous voulez, dans la théologie de l'époque et jusqu'au 5e siècle en tout cas, même un peu après, ils font très attention entre le Fils unique et le Fils premier-né, si vous voulez. Ou le Fils éternel qui existe depuis toujours, on va le rencontrer dans la lettre aux Colossiens, et puis le Fils qui est Jésus de Nazareth, qui est le Christ par ailleurs. Il y a une distinction, si vous voulez, entre le premier fils, le fils éternel ou le fils unique, c'est la parole éternelle de Dieu, en fait. C'est Dieu en tant qu'il est parole, en tant qu'il est plan, qu'il est visé, qu'il est... c'est ça, finalement.
C'est monogène.
C'est le fils monogène, voilà. Et nous dit l'Évangile selon Jean, voilà, cette parole éternelle de Dieu, elle se fait chair en Jésus-Christ. En Jésus, ce qui est un homme. Et là, ce n'est pas le Fils éternel, l'homme Jésus de Nazareth. Il a eu une naissance, justement. Il y a eu une incarnation, il y a un début, il y a des chromosomes, il y a de l'ADN, il y a des doigts de pied, si vous voulez. Et ces doigts de pied de Jésus de Nazareth, ils n'existaient pas à l'origine du monde. Ben, la matière, peut-être, ou l'énergie, je ne sais pas comment c'était à l'origine du monde, c'est une autre question. Mais si vous voulez, en tant que doigts de pied, en tant que chromosome, en tant qu'ADN de Jésus de Nazareth, il n'existait pas au commencement du monde. C'était une visée de Dieu, on peut dire la parole éternelle de Dieu, qui se proposait dans une projection formidable de toute éternité, qui a pu enfin se réaliser dans une personne qu'est Jésus de Nazareth. Donc vous voyez qu'il y a une distinction entre le plan de Dieu, la visée de Dieu, la parole éternelle de Dieu, qui est Fils, voilà, c'est appelé le Fils éternel du Père, ou le Fils monogène, et puis le fils premier-né, qui s'appelle comment, Prototokos, je crois, ou quelque chose comme ça, c'est le Fils premier-né, là, c'est Jésus de Nazareth. Et donc, là, vous voyez, il y a aussi encore une distinction, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit la Trinité, par exemple, on n'est pas forcément fan de cette expression de la foi qui est discutable, discutée, et pas forcément pertinente à toutes les époques. Mais si on veut utiliser cette façon de dire la foi chrétienne qu'est la Trinité, il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Bon, pour le Père et l'Esprit, c'est quand même relativement clair. Pour le Fils, de quoi parle-t-on ? Le Fils, ce n'est pas Jésus de Nazareth, si vous voulez. C'est la parole éternelle de Dieu qui est Dieu. Tous les conciles disent que celui qui dit que Jésus est Dieu, c'est une hérésie. C'est des hérésies bien connues qui ont traversé les siècles Et c'est pas cachère de dire ça, si vous voulez. Enfin, on a le droit de penser ce qu'on veut, après tout. Je veux dire, on est libre, hein, on est en démocratie et dans l'Église chrétienne plus qu'encore ailleurs. Mais c'est, je crois pas que ce soit très sain de le dire. Parce que si vous voulez, l'homme qui marchait sur les routes poudreuses de Capernaum, c'était pas Dieu lui-même qui se promenait en sandales, si vous voulez. C'est pas sans rapport avec Dieu. C'est pas sans rapport avec le Fils monogène, le Fils éternel de Dieu, c'est la parole faite chair qui devient chair, qui est engendrée, et on a ces paroles assez fortes, dites à Jésus-Christ, « Aujourd'hui je t'ai engendré ». On va aussi croiser cette parole dans Colossiens. En tant que Fils premier-né, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, Fils de l'homme aussi, eh bien, il est engendré à une certaine époque de l'histoire, même si, en tant que vision, projection de Dieu, il existait de toute éternité dans sa parole, dans le Fils éternel, dans le Fils monogène, Fils unique. Vous comprenez ? Enfin, là aussi, c'est un peu délicat, parce que ça touche à des choses très profondes. Quand on prie Jésus, moi, je suis toujours un peu... Je trouve qu'on est un peu borderline, comme on dit en français. Parce que est-ce que c'est l'homme avec sa tunique et ses sandales et ses doigts de pied compris ? C'est un peu gênant quand même. Et on est à la limite du monothéisme, voilà, ou de l'anthropomorphisme. On fait de Dieu un homme. Alors que si on prie le Fils, la parole éternelle de Dieu, à ce moment-là, oui, qui s'est fait chair en Jésus-Christ. Donc vous voyez, là, on touche des choses quand même assez délicates et à mon avis, ça mérite grandement d'y réfléchir pour ne pas tout à fait... penser, dire et faire n'importe quoi, parce que c'est pas, comme le disait Jérôme, c'est pas sans conséquence, loin de là, franchement, sur notre façon d'espérer, de prier et de croire, en fait.
Oui, parce que nous l'avions dit lors de la dernière séance, la formule orthodoxe retenue, c'est Jésus est Dieu et homme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire Jésus est seulement homme ou Jésus est Dieu, on tombe dans le monophysisme, on avait évoqué ça la dernière fois, il faut tenir Jésus est Dieu et homme. Alors, étonnamment, je suis peut-être un peu plus protestant que toi sur mon christocentrisme, parce que si effectivement on dit que Jésus de Nazareth, qui marche sur les routes, qui mange, qui a des moments de colère, des moments d'abattement, etc. Si on dit qu'il n'est pas directement le Dieu d'Israël, ce qui est tout à fait simple à comprendre, mais on maintient quand même une pré-compréhension de Dieu, et l'Église catholique a toujours défendu ça, que l'esprit humain, que l'homme, par ses propres ressources intellectuelles, pouvait arriver à une idée de Dieu. Le problème, c'est que l'incarnation, c'est un changement de régime et d'économie, et moi, je suis assez enclin à dire, un peu comme Luther, que c'est en Jésus qu'on a quand même la révélation de la vraie identité de Dieu.
Ah, ça, je suis d'accord.
Parce qu'on peut effectivement se faire une idole de Dieu, une idole conceptuelle. Pascal, par exemple, était très sévère quand il parle du Dieu des philosophes. Et dans son mémorial, sa nuit de révélation, il dit bien, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu vivant et vrai, c'est le Dieu de l'histoire, c'est le Dieu qui, finalement, sur la croix, révèle son intimité, sa faiblesse, sa manière d'abdiquer les pouvoirs pour être le vrai souverain de l'histoire. Et donc, j'ai toujours peur que lorsqu'on sépare trop Jésus du monde de Dieu, et ce n'est pas du tout pour déifier Jésus, mais c'est que j'ai peur qu'on ait du coup une pré-compréhension de Dieu, une sorte de définition qui, d'une certaine manière, dans le monde contemporain, ne marche plus. Puisque cette pré-compréhension de Dieu, au Moyen-Âge, elle faisait partie de l'opinion de la doxa, comme on dit, c'était reçu. Aujourd'hui, dans un monde agnostique, du coup, alors que pour moi, il faut retisser, remailler tout à partir de Jésus et remonter. Mais entièrement d'accord, évidemment, pour dire que Jésus n'est pas un avatar.
Oui.
N'est pas un avatar comme chez les hindous, Il n'est pas Dieu qui descend comme ça. Et puis, non, il a une histoire, il naît dans le sein de Marie, il a un engendrement.
Non, mais ça, moi, je suis hyper d'accord. Mais quand on dit que c'est la parole de Dieu faite chair et qu'on fait une distinction entre cette parole éternelle de Dieu et cette parole faite chair, je crois que c'est là que ça se joue, il faut la jouer assez finement.
Oui,
quoi.
Oui, oui.
Je crois qu'il faut tenir au fait que ça soit la parole de Dieu faite chair. Et je trouve que l'évangile selon Jean creuse vraiment bien cette question. Quand il dit « qui m'a vu a vu le Père
oui. »
ou « qui ce ne sont pas mes œuvres, c'est celles du Père », je crois que là, il y a quelque chose, voilà.
Hein. « Le Père est en moi et je suis... »
Oui, c'est ça, oui. Mais il dit aussi, c'est là qu'il est le Fils premier-né et pas seulement le Fils éternel, parce qu'il dit... Il dit un peu plus loin, il nous fait la même promesse, que, c'est-à-dire, voilà, Dieu sera en vous, fera sa demeure en vous, et vous serez en Dieu, et donc il y a cet engendrement qui nous est proposé aussi, je crois, à la suite de Jésus de Nazareth.
Il y a ce passage étonnant que j'ai redécouvert, parce que c'était dans le lectionnaire de l'Église catholique la semaine dernière, où les groupes hostiles à Jésus, je pense que là ce sont des pharisiens ou des sadducéens, lui disent « tu blasphèmes parce que tu te dis fils de Dieu et même Dieu lui-même ». Alors évidemment, on se met à leur place, on comprend tout à fait qu'ils soient révoltés. Et Jésus, et c'est la seule fois où il le dit, il cite le livre de la Genèse, « vous êtes des dieux », cette phrase de la Genèse, et il dit « mais au fond, si je me dis Dieu, c'est parce que vous aussi, vous êtes appelés à l'être ». Et là, je pense qu'on a la clé, parce qu'on a trop souvent... tendance à imaginer une sorte de podium olympique, vous savez, avec Jésus, il y aurait Dieu, Jésus qui serait dans l'espace intermédiaire, et puis nous. Or, Jésus est pleinement solidaire, il est homme comme nous, et simultanément, il est Dieu.
Mais il ne se dit pas Dieu, là, il se dit fils de Dieu. Hein.
Oui, il se dit fils de Dieu, oui, oui. Mais disons que, comme on a déjà la question du grand prêtre dans la Passion, en tête, on voit bien que fils de Dieu, là, c'est quand même, on est du côté du monde de Dieu. C'est pas seulement l'expression classique. Et en tout cas, Jésus laisse entendre qu'au fond, cette appellation n'est pas usurpée ou erronée parce que chaque être humain est appelé à voir se révéler cette identité divine. Bon.
Donc finalement, le salut, s'il y a ces doubles filiations, adoption et engendrement, le salut, il est double. Par l'adoption, il y a l'idée d'une amnistie, d'un pardon, c'est-à-dire qu'on est accepté sans condition. Il y a quelque chose qui se joue qui est de l'ordre du pardon, de l'acceptation, de la dignité qui est donnée. Et côté engendrement, il y a le côté libération, on verra souvent cette notion, c'est-à-dire qu'on est libéré, c'est une création-libération. Et c'est là que les Pâques chrétiennes reprend la Pâque juive. Il y a l'idée d'une sortie d'Égypte pour être allée vers la terre promise, relue dans le christianisme comme une sortie, une libération du péché, c'est-à-dire d'une ancienne façon d'être où nous sommes menés par le bout du nez, par nos instincts, par nos préjugés, par notre corps, notre psychologie, notre inconscient peut-être. Il y a une libération de ça pour être conduit dans cet engendrement, vers un état où nous avons une certaine liberté et une capacité créatrice à créer le bien, donc dans cet engendrement. Donc voilà, il y a un double salut là, je crois, qui se joue. Une amnistie, bon, il n'y a pas de problème, c'est plus la question. Et puis... cette lente évolution qui nous est proposée, cette lente libération, et nous le savons tous que nous sommes dans ce chemin, dans ce cheminement finalement.
On va peut-être lire le texte de l'Épître aux Romains. Je voudrais juste faire une petite mise au point lexicale ou terminologique. La chair et l'esprit, vous savez que ce sont des expressions pauliniennes que l'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens aussi. La chair, l'esprit vivifie, et la chair... ah oui, bon, c'est la question de la lettre et de l'esprit, mais ici c'est la chair et l'esprit. On a tendance à voir dans ce couple de mots un autre couple qui nous vient de la philosophie grecque et platonicienne. On entend souvent le corps et l'âme. Alors la chair et l'esprit, ça n'est pas le corps et l'âme. Le corps et l'âme, on est en pleine philosophie dualiste. Le corps est un tombeau et l'âme est le principe spirituel qui est appelé à vivre et à rejoindre le monde des idées chez Platon, etc. La chair et l'esprit, ce sont des catégories que Paul réemprunte à la tradition biblique, à la tradition hébraïque, qui est une tradition matérielle d'ailleurs, hein, très, très concrète. Les deux termes sont des modalités de vivre le corps, mais on ne sort jamais du corps dans la pensée juive. Très important, il n'y a pas une âme qui serait distincte du corps et qui s'échapperait du corps, si ce n'est dans des pensées grecques qui ont un peu corrompu la pensée juive. Mais dans le judaïsme, la chair et l'esprit sont deux manières de vivre son corps. On peut vivre selon la chair ou selon l'esprit, mais toujours en situation incarnée, corporelle, bien sûr. Sinon, on ne comprend pas bien le texte et on fait une lecture, clivée du texte. Or, il s'agit bien de vivre notre condition humaine. Alors, la chair chez saint Jean, puisque Marc évoquait le prologue de Jean, le verbe qui se fait chair, la chair chez saint Jean, c'est la condition humaine, hein, et non pas la nature, parce que effectivement, c'est la condition humaine, c'est la finitude. Voilà, c'est le verbe se fait chair, ça veut dire que le monde de Dieu rejoint le monde de l'homme. Celui qui est le saint, le pur, ne devient pas impur en entrant dans l'histoire, mais il endosse la condition humaine. Chez saint Paul, c'est à peu près le même sens, c'est la condition humaine, mais saint Paul a une vision que saint Augustin va ensuite reprendre, une vision un peu plus pessimiste. Donc la chair chez saint Paul, dans ce texte, c'est la condition humaine, mais en tant qu'elle est orientée vers les satisfactions égoïstes, hein, ce qu'on appelle le péché. Et d'ailleurs, saint Paul parle toujours de sarx amartias, c'est-à-dire la chair de péché. Alors, évidemment, vous le savez, toute une tradition occidentale a parlé de la chair ou du péché de chair en pointant uniquement la sexualité. Hein. Mais la chair chez saint Paul, c'est bien autre chose. La sexualité en fait partie, avec ses passions et ses désordres, mais pas seulement. La chair, c'est l'égoïsme, au fond, chez saint Paul. Si on vit selon la chair, on vit pour soi. Si on vit selon l'esprit, on vit orienté vers Dieu. On a déjà presque les deux cités de saint Augustin, la cité terrestre, la cité de Dieu, qui sont toujours entremêlées. Voilà.
Oui, t'as raison, oui, tout à fait.
Donc, évidemment, la dramatisation, c'est que pour saint Paul, le Christ, par sa Pâque, d'une certaine manière, a vaincu le péché. Alors, nous continuons à vivre dans la chair, donc, et cette chair, c'est une chair de péché, mais nous n'avons plus besoin de la loi qui nous révélait le péché, mais qui nous rendait incapables d'y résister. Hein. Saint Paul, vous le savez, est très sévère vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis de la loi, qui nous rend schizophrènes, parce qu'elle pointe le péché, mais elle ne donne pas la force de surmonter le péché. Elle révèle que je suis pécheur, elle me culpabilise à mort, si j'ose dire, en ne me donnant pas la puissance dans les fibres de ma chair d'y résister. Et donc, elle crée une personnalité clivée. Alors, cette personnalité clivée, elle subsiste après la Pâque du Christ, bien sûr, mais saint Paul dit, c'est joué, puisque vous êtes déjà mort avec le Christ. Donc, votre chair a déjà été mise à mort, le péché est mort. Bien sûr, la chair et le péché vont continuer d'être là, mais ils n'ont plus le même statut. Et c'est ça qui est très complexe dans ce texte. On va peut-être le lire parce qu'il faut le lire. Oui, oui. L'Épître aux Romains, vous savez, c'est un sommet. Hein. Karl Barth, saint Augustin, Luther, Calvin, tous les grands se sont affrontés à ce texte. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ? Chantal, peut-être ou... Prends bien ton souffle, parce que...
Mais s'il est devant devant le haut-parleur, je ne sais pas si ça va
le faire. Ah, je ne sais pas si... Oui, peut-être il faut...
Non, ça ira peut-être.
Ça ira.
Ainsi, Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car en me faisant passer sous la loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré. Moi qui étais sous la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans notre condition humaine de pécheur pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a détruit le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que les exigences de la loi sur la vie civile, qui ne vivront pas sous l'emprise de la chair ni de l'esprit. En effet, sous l'emprise de la chair, on tend vers ce qui est charnel. Sous l'emprise de l'esprit, on tend vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la chair tend à se révolter contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est même pas capable. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit. Puisque l'Esprit de Dieu vous habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché. L'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à un corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire.
Oui.
J'estime donc qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation au Fils de Dieu.
Donc vous voyez, je crois que, vous voyez là, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on peut le voir donc, dans cette idée, si vous voulez, déjà au début, si vous voulez, il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont dans le Christ Jésus. Voyez. Comment on peut voir la chose? On peut voir la chose soit en disant ben, il y a seuls les chrétiens, les baptisés qui seront sauvés, ou bien au contraire, on peut le voir comme une révélation, c'est-à-dire qu'en Christ Jésus, l'homme peut prendre conscience qu'il n'y a plus de condamnation, en fait. Oui, on peut le voir dans un sens ou dans l'autre, soit comme une fermeture, soit comme une ouverture. À mon avis, c'est une ouverture, parce qu'effectivement, il est question de la grâce. Effectivement, au verset 14, par exemple, non, plutôt au verset 15, on reconnaît, si vous voulez, que... par l'esprit, on reconnaît qu'on est enfant adoptif, et on est à ce moment-là, on n'est plus sous la peur, vous voyez. On est cet esprit, il nous fait prendre conscience qu'on n'est pas des esclaves, c'est-à-dire qu'on n'est plus à avoir à à faire quelque chose pour gagner le salaire ou pour mériter. Non, on est considéré simplement comme un enfant adoptif, et nous sommes donc héritiers avec le Christ. Mais il y a quand même dans ce texte un appel, par exemple, au verset 13, au verset 14, en disant, mais ne rigolez pas, finalement, parce que la façon dont vous placez votre existence, eh bien, change quand même quelque chose. Le verset 14, voilà, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Donc, il y a comme une contradiction interne, si vous voulez. Si on ne comprend pas qu'il y a deux filiations, il y a quand même cet appel à se laisser conduire par l'Esprit, à s'ouvrir à l'Esprit, à faire ce choix, cette orientation. Est-ce qu'on regarde, comme tu disais, est-ce qu'on est, on vit selon la chair, c'est-à-dire en prenant l'égoïsme ou en prenant la simple vie en ce monde comme seule visée de notre existence, ou bien si on se laisse conduire par l'Esprit, créé par l'Esprit, engendré par l'Esprit, et à ce moment-là, eh bien, on a cette participation à la vie.
Bon, la dialectique paulinienne est tellement grandiose que on a tendance à lire ça un peu comme un poème à un moment, parce que il y a des effets un peu d'ailleurs hébraïques, hein, c'est-à-dire de répétition, et en même temps on voit que Paul est un bon citoyen romain, qu'il a eu une culture, c'est un biculturel, hein, il l'a toujours dit, et même triculturel, il s'en vante, puisqu'il a eu cette particularité de grandir dans une famille juive de stricte observance, hein, il le dit, hébreu, fils d'hébreu, dans le langage de l'époque, ça veut dire vraiment une famille juive plutôt traditionnaliste, hein, qui a le souci de ne pas se compromettre avec la culture qui séduit à l'époque, pas seulement la présence romaine, bien sûr, on parle toujours de l'occupation romaine, mais la culture grecque qui est présente depuis longtemps. On le voit bien dans le prénom de certains disciples. On voit bien qu'il y a une influence de la culture grecque, avec André, Philippe, ce sont des noms grecs. Et donc, hébreu, fils d'hébreu, donc il connaît la pensée rabbinique, il lit l'hébreu. Il est citoyen romain, juridiquement, il a la civitas, la civitas, et il a la citoyenneté, ce qui lui vaudra d'être décapité et non pas crucifié, et il maîtrise la langue grecque et la pensée grecque. Donc ici, on a une sorte de syncrétisme, hein, une pensée absolument géniale, parce que c'est un creuset, il fait son miel à la fois de la dialectique grecque et puis des concepts qui viennent de la pensée rabbinique, etc. Alors, évidemment, on voit bien que bon, c'est un homme qui a été saisi par Dieu, c'est incontestable, saisi par le Christ, et il épuise ses forces psychiques et intellectuelles à tourner autour du mystère de Dieu et de cette justification. Alors, l'esprit, par l'esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur. Donc on voit bien que ce qui va tuer le péché en moi, ce n'est plus ma propre volonté. Ça n'est plus l'effort que je vais pouvoir faire, ça n'est plus mon ascèse personnelle. Un certain nombre de courants religieux de l'époque étaient des courants ascétiques. Mais tout est déjà joué. Nous sommes à la fois sauvés, nous sommes déjà morts. Et ça, moi, j'y crois profondément. Le baptême est le rappel de cela. D'une certaine manière, notre vie est le déploiement dans le temps, ce qui n'enlève pas sa valeur à l'histoire, bien sûr, hein. Il s'agit pas de, c'est pas un retour au fatalisme et au tragique. Il ne s'agit pas de dire que tout est joué. Bon, non, c'est pas ça. Tout est joué en espérance, il le dit dans d'autres textes, c'est-à-dire qu'il y a un acquis définitif par le mystère pascal. La croix et la résurrection ont quelque chose qui échappe à la contingence de l'histoire humaine, qui sont de l'ordre du définitif. Mais pas du définitif au sens métaphysique d'une permanence qui plane au-dessus de l'histoire et du monde, comme les idées platoniciennes. Du définitif dans l'histoire. dans la chair précisément. Cette chair marquée par la finitude, marquée par le péché, marquée par les errances, par la schizophrénie, parce qu'il le dit juste avant, au chapitre 7, « Je vois le bien et je fais le mal. Je ne fais pas ce que je voudrais faire, etc. » Vous connaissez ces phrases que l'on retrouve chez Ovide également, que l'on trouve dans la poésie païenne de l'époque. Cette espèce de clivage dans l'homme qui voit où est le bien, mais qui n'arrive pas à le faire. Et évidemment, Paul le vit de manière, parce que c'est un homme entier, il le vit de manière intense, de manière extrêmement dramatique. J'ai une écharde dans ma chair, dit-il. Donc lui-même est aux prises avec cette espèce de drame qui n'est pas seulement un état d'âme psycho-affectif. Non, c'est vraiment l'enjeu du destin de l'homme, c'est de se livrer à ce corps à corps, à ce combat spirituel. Et donc, évidemment, tous les termes là tournent autour de l'idée qu'il faut être dans le Christ Jésus. Et c'est souvent une rhétorique, une phraséologie que nous utilisons, et nous ne savons plus très bien, le canon de la messe catholique se termine en disant « par lui, avec lui, en lui ». Donc on voit bien qu'il faut être dans le Christ, et ce qu'on appelle les sacrements, et en particulier le baptême et l'Eucharistie, ce qui tombe bien puisque ça nous rassemble un peu quand même, le baptême nous incorpore à Jésus, nous rend membres de son corps, et on va en reparler avec Colossiens justement, et l'Eucharistie a ce paradoxe vertigineux de nous faire digérer, de nous faire incorporer par Jésus. Au moment où nous le digérons, c'est lui qui nous assimile à lui. Vous savez, quelquefois il y a des gens très scrupuleux qui veulent savoir si l'hostie est vraiment Jésus pendant tout le trajet digestif, etc. Bon, évidemment, ce genre de questionnement que les enfants de cœur se posaient autrefois, eh bien, d'une certaine manière, ça ne tient pas devant la réalité théologique, parce que c'est le Christ qui nous assimile à lui, qui nous intègre à son corps pour, charnellement, par son incarnation, triompher précisément du mal. Alors, donc, cette question, être dans le Christ est en moi, mais précisément parce que je suis en lui, c'est quelque chose qui n'est pas seulement une pirouette, c'est pas juste une figure de rhétorique, c'est pas une figure de style, une clause de style, il s'agit bien d'être en lui. Et la question va être tellement brûlante que dans l'épître aux Colossiens, alors c'est une épître que l'on appelle deutéropaulinienne, ce qui veut dire qu'elle n'est pas de la main même de saint Paul, mais d'un disciple. Mais en tout cas, quel est le problème qui se pose dans le texte suivant? C'est que les chrétiens de Colosse sont tentés par des croyances qui viennent du paganisme, du judaïsme. C'est la question des hiérarchies intermédiaires, des puissances. Est-ce que les astres, est-ce que la météo, est-ce que ce qui influe le destin des hommes, qu'on a appelé après des anges, est-ce que ces puissances sont supérieures, inférieures, à côté de Jésus? Comment faut-il penser tout cela? Et la pensée des disciples de saint Paul est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est clair pour eux que le Christ a la suprématie totale, et que ces puissances, d'une certaine manière, sont non seulement relativisées, mais elles sont même rendues caduques, il n'y en a plus besoin. Et on a là l'apparition d'un Christ total, d'un Christ cosmique, où l'Église, le corps du Christ, le corps mystique du Christ, après son ascension, devient coextensive à l'histoire humaine, à l'histoire de l'humanité elle-même. Et ce texte sera même approfondi encore plus dans l'Épître aux Éphésiens, où on a, bon, on va peut-être lire le texte aussi, mais où on a cette impression que finalement, tout est dans le Christ. Pas seulement ma chair de péché, mais le cosmos entier. Et ça, bon, c'est splendide et c'est vrai.
Mais ce que je trouve, ce qui est intéressant que tu disais, c'est qu'effectivement, Ce salut, où est-ce qu'il se joue finalement? On peut penser parfois que, bon, ça date d'Anselme de Canterbury, surtout avec l'histoire de la satisfaction vicaire dont on a déjà parlé, mais on s'imagine que le salut, c'est le Christ qui paye la note sur la croix en souffrant beaucoup, et donc il paye pour nous, pour les pécheurs, et donc du coup il achète notre pardon. On voit bien dans ce texte, si vous voulez, que c'est pas en cause. On a été considéré par Dieu comme ses enfants, par grâce, et il n'a pas besoin que quiconque, encore moins un innocent et encore moins son fils, ne souffre pour pouvoir pardonner en toute justice. Car la justice de Dieu, c'est l'amour et la grâce, et il n'y a pas besoin du tout de cette histoire de donnant-donnant, d'une souffrance qu'en rachèterait une autre, ce qui est une idée tout à fait perverse. On voit que ici, si vous voulez, dans le verset 2 de cette lettre de Romains 8, le Christ Jésus m'a libéré, donc il part bien, moi qui étais sous la loi du péché et de la mort, donc c'est le quelque chose qui est changé par le Christ, c'est bien à l'intérieur de nous-mêmes. On est dans une loi du péché, c'est-à-dire on est dans une sorte de programmation un peu fatale, dont tu parlais avec cette histoire de clivage de l'homme, avec cette tension finalement qui est à l'intérieur de nous-mêmes entre une visée idéale que nous pouvons avoir, une notion du bien, même si elle est encore affinée en Jésus-Christ, bien entendu, mais quand même, et puis cette loi qui fait que nous en faisons qu'à notre tête et selon nos propres instincts et notre inconscient sans aucune liberté. Donc c'est là-dedans, à l'intérieur de nous-mêmes, que se joue le salut du Christ, comme une création finalement, quelque chose qui vient débloquer ça à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand tu disais qu'on parle déjà de cette tension à l'intérieur de l'homme, donc chez Ovide, mais on en parlait déjà dans le bouddhisme par exemple. Ouais. Il y a une souffrance de l'homme qui est tiraillée entre une certaine visée vers le haut et toujours cette logique qui fait que ben, finalement on fait ce qui nous passe par le par les tripes, par l'instinct.
Baudelaire
ne parle que de ça aussi. Et donc, il peut y avoir dans une pensée orientale, peut-être, l'idée de dire, ben, écoutez, c'est facile, on va résoudre cette tension, cet esclavage, en supprimant le désir de la chair. On va supprimer le désir, on va supprimer les plaisirs, le fait... Voilà, on va se vider de cette préoccupation de soi-même. On va se vider de notre corps pour chercher à devenir, dans un certain sens, ne vivre que selon l'esprit. Mais, comme tu disais, l'esprit et la chair, c'est comme les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas supprimer une des deux faces. Elles sont... On ne peut pas faire autrement que les pièces et deux faces. On peut limer, mais il y aura toujours les deux faces quand même. Ou alors on fait un trou, mais il n'y a plus rien, quoi. Donc, pour résoudre cette tension en Christ, finalement, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre d'abord que nous n'avons rien à craindre de Dieu, que nous sommes dans l'amour, dans la grâce, et donc on peut se confier entièrement à Dieu. Et dans cette confiance, on peut effectivement voir en Christ que quand on est dans cette confiance, eh bien, finalement, c'est possible de résoudre cette tension, non pas en niant le corps, mais en le transcendant finalement. Et ça, c'est une découverte, je crois, particulière en Jésus-Christ, de voir que c'est possible, et que c'est possible dans une confiance absolue dans le Père, et ça aussi, je crois que c'est le Christ qui nous l'apprend. Qu'on n'est plus dans cette culpabilisation, dans cette peur de Dieu, non. De cette façon, nous sommes sauvés par grâce, et donc nous pouvons y aller franco. On n'est plus à l'usine, on n'est plus dans la crainte, on peut s'ouvrir au Père, on n'a rien à perdre, on n'a rien à craindre, on a tout à gagner dans cette ouverture. Et que du coup, par le Christ, oui, et en Christ aussi, car ensuite c'est dans cette ouverture que permet le Christ, nous pouvons nous tourner vers le Père, et nous tournant tous individuellement vers le Père, nous sommes dans cette communion au Christ. Alors ensuite, pour les sacrements, moi je suis d'accord, effectivement, dans ce baptême et dans l'Eucharistie, sauf que pour nous, ça reste quand même de l'ordre du symbole, c'est-à-dire qu'on entre dans une alliance par le baptême, mais cette alliance, elle existait déjà avant, c'est-à-dire cet amour de Dieu existait déjà avant, mais par le baptême, c'est une façon de marquer dans notre corps quelque chose qui existait déjà, j'allais dire de toute éternité, dans l'esprit. Donc c'est une pédagogie pour l'homme, pour que ça puisse s'inscrire dans notre chair. Donc on est de l'ordre, non pas du premier filiation, mais de l'ordre de la deuxième, c'est cette ouverture à l'esprit pour se laisser infuser par cette dynamique qu'est le Christ. Et pour l'Eucharistie, c'est pareil, c'est pas une question de digestion effectivement des molécules, et là on est complètement d'accord, cette présence réelle du Christ, c'est une présence réelle par l'esprit, saisie par la foi, pas par saisie par la digestion, bien entendu. Et cette présence réelle du Christ, elle n'est pas moléculaire dans l'hostie ou dans le vin, elle est réelle par la foi, quand on assimile et qu'on digère spirituellement, existentiellement, cette réalité du Christ, et que oui, nous entrons dans le corps du Christ et que nous devenons corps du Christ, c'est-à-dire nous participons à cette nature christique de Dieu. Alors, est-ce qu'on prend le temps de lire Colossiens?
Oui, je voulais juste rajouter une petite chose. Donc, effectivement, l'action salutaire de Dieu, l'action salvifique, comme on dit, l'action vivifiante de Dieu n'est pas mécanique, bien sûr. À partir du moment, bien sûr, je dis que tout est joué dans la Pâque, mais la Pâque est une libération. Si c'est une libération, nous sommes libres. Et nous sommes libres complètement, c'est-à-dire pas seulement d'une liberté téléguidée, puisque saint Augustin sépare toujours le libre arbitre, qui est une liberté pécheresse, et une liberté qui serait tournée uniquement vers Dieu. À partir du moment où nous sommes libres, c'est notre réponse qui détermine notre salut, et c'est la foi. Et vous avez peut-être vu dans ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, saint Paul parle de la loi de la foi. Et il sait ce qu'il dit, puisque lui est un citoyen, j'allais dire, de la Torah. Il a grandi dans la Torah. Il sait ce qu'est la loi. Il sait ce qu'est une religion légale, une religion de la loi. Et donc, il parle de cette nouvelle loi, nouvelle alliance, qui est la loi de la foi. Alors, la foi n'est pas juste un sentiment subjectif. La foi, j'aime beaucoup cette expression en français, donner sa foi à quelqu'un, n'est pas seulement un ensemble de croyances plus ou moins articulées, plus ou moins satisfaisantes pour l'esprit. C'est vraiment un dynamisme. On donne sa foi, qui d'une certaine manière existe chez tout le monde au plan anthropologique, mais pour la donner à ce Dieu qui me libère et qui me fait passer sous la loi de l'esprit, il dit la loi de l'esprit et la loi de la foi, comme si, vous voyez, il y a un lien entre l'esprit et la foi, c'est évidemment une nouvelle économie et une libération totale. Alors, la filiation dont il est question depuis le début est une libération, et ce qu'on verra peut-être tout à l'heure avec l'Épître aux Hébreux, où la filiation est vue en termes d'obéissance. Le Fils a été le Fils, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est l'Épître aux Philippiens. Dans l'Épître aux Hébreux, on parle aussi de « il a appris l'obéissance », « il a appris ce que c'est qu'obéir ». J'ai toujours trouvé terrible cette traduction, mais voilà, l'obéissance, c'est-à-dire l'écoute intérieure. Donc, la filiation, c'est la libération, mais une libération qui conduit à l'obéissance, à une forme de docilité au plan de Dieu, une libération telle que je suis libéré de ma chair de péché et que seul l'esprit, c'est-à-dire l'haleine même de Dieu, tu le disais, c'est le souffle, c'est pas seulement une réalité abstraite, c'est l'haleine même de Dieu qui parle en moi et qui me conduit à obéir. Et de ce point de vue-là, le seul à l'avoir fait, c'est Jésus. C'est-à-dire qu'en obéissant, il est l'homme suprêmement libre. Pour nous, c'est une contradiction. On ne peut pas être libre sur la croix. Et précisément, il fait de sa passion une action. Là où les yeux du monde ne voient dans la passion qu'une passivité, une victime passive et finalement qui n'est pas maître de ce qui se joue, de l'événement, eh bien Jésus renverse par sa liberté, il fait de sa passion une action, un drame au sens grec du mot, c'est-à-dire l'action suprême. Et là où nous le voyons passif, il est suprêmement actif, tellement actif qu'il arrive à triompher de la mort même. Ma mort, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et c'est par le don qu'il renverse les événements de la passion. On peut peut-être lire.
Oui, on va peut-être lire ce Colossiens. Vous voulez que je lise ? Bon, je vais vous lire ça. Donc Colossiens, le début de cette lettre aux Colossiens, au verset 9. Depuis le jour où nous avons entendu parler de votre vie dans le Christ, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de toujours lui plaire. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez puissamment fortifiés par la puissance de sa gloire, qui vous donnera la persévérance et la patience. Avec joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature. Car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Les êtres visibles et les puissances invisibles, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et vous, vous étiez jadis étrangers à Dieu. Vous étiez même ses ennemis avec cette mentalité qui vous poussait à faire le mal. Et voilà que maintenant Dieu vous a réconcilié avec lui grâce au corps humain du Christ et par sa mort pour vous introduire en sa présence, saint, irréprochable et inattaquable.
Grâce au corps humain du Christ.
Oui, grâce au corps humain du Christ et par sa mort.
On n'avait pas prévu de rajouter ça, mais j'ai rajouté.
Oui, c'est bien. Oui, oui, oui.
Grâce au corps humain du Christ.
Oui, c'est très, très, c'est formidable. Oui, oui, tout à fait. Mais on voit bien que c'est, voilà, c'est quelque part en nous que ça se joue. Finalement, quand même, ce salut, c'est pas Dieu qui se convertit finalement avec le Christ en croix, se convertit. À nous tirer du péché et de la mort. Mais c'est cette volonté de Dieu voilà, qui nous ouvre à cette dynamique du Christ. Alors, c'est vrai qu'on retrouve bien... Oui, vas-y. Ouais.
Non, ce texte, en fait, il faut bien voir que c'est un texte un peu... prototype, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on parle comme ça de Jésus. Jésus est mort depuis peut-être, je sais pas, 30 ans. Enfin, nous, évidemment, on a l'habitude de voir le Pantocrator sous les coupoles byzantines, on a l'habitude de voir des icônes, toute l'iconographie occidentale extraordinaire. Donc, cette récapitulation de l'histoire et du cosmos sous les pieds du Christ, nous qui avons lu Teilhard de Chardin, qui... Claudel, etc., ça ne nous surprend peut-être pas, mais il fallait quand même le faire pour dire ça. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est Jésus de Nazareth qui est identifié au Fils monogène et qui récapitule l'histoire, le monde, et vous voyez toutes les puissances qui viennent sous ses pieds d'une certaine manière. Et on a tout le langage du salut, je ne m'en étais pas aperçu, mais toutes les images du salut, la vraie connaissance de Dieu, c'est la gnose, la vraie gnose, pas la fausse, pas la gnose intellectuelle, la vraie connaissance de Dieu, l'héritage du peuple saint, donc on est encore dans l'adoption, Nous sommes sauvés et donc co-héritiers. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, c'est l'illumination. Il nous a rachetés, nous sommes rachetés, c'est la rédemption. C'est tout à fait étonnant. Et puis, il est la tête du corps. Donc, on retrouvera ça dans l'Épître aux Éphésiens. Paul en avait déjà parlé dans la deuxième aux Corinthiens. Voilà, nous sommes les membres du corps, l'Église est comme un corps. Quand le pied a mal, vous savez, voilà, 1 Corinthiens 12. Mais ici, il donne à cette image organique hein, de l'Église, qui était un peu fonctionnaliste encore dans Corinthiens. Ici, c'est une vision vraiment mystique. Hein. C'est la révélation de la destinée humaine, c'est-à-dire que nous sommes appelés à devenir membres de ce corps que le Christ est. Il est à la fois la tête et il est le corps, c'est-à-dire que c'est un dispositif un peu étonnant, c'est-à-dire qu'il est le corps, nous sommes incorporés à lui, mais lui-même dans le corps, c'est peut-être là la distinction qu'on peut faire entre précisément le Fils premier-né et puis le Fils
monogène.
Monogène, éternel, le Fils unique, le Fils éternel, effectivement, qui la tête de pont, la tête, celui qui récapitule, puisque récapituler, caput, hein, capitis, c'est la tête, celui qui est vraiment la tête, c'est le Jésus qui est mort sur la croix et qui a été vu des apôtres.
Oui, parce que là, on retrouve bien ces histoires des deux fils, vous voyez, le Fils éternel et puis le Fils le Fils premier-né, c'est-à-dire le Fils, la parole de Dieu qui est faite chair. Et donc, on a l'impression quand même là qu'il dit que le Fils premier-né, Jésus de Nazareth, quoi, il est créé, si vous voulez. Or, le Fils éternel, lui, n'est pas créé, c'est la parole éternelle de Dieu n'est pas créée. Donc, il le dit, si vous voulez, là, il parle du Fils, mais c'est toujours un peu ambigu, parce qu'il existait depuis toujours, ou est-ce que c'est le premier-né, ça, c'est par rapport à toutes les créatures, donc c'est le premier-né, donc on dirait que le Christ, là, est créé, si vous voulez, ou alors, ensuite, il y a marqué que, au verset 19, Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Non, c'est pas là. Il y a l'idée de création, il est un peu fait, un peu incarné grâce au corps humain du Christ, si vous voulez. Il y a vraiment l'action de Dieu. Il a voulu tout réconcilier. Donc, il y a vraiment le Dieu qui fabrique Jésus-Christ, fabrique Jésus de Nazareth. À ce moment-là,
c'est le symbole de Nicée. Engendré, non pas créé, oui. Et ensuite on dit « il s'est incarné ».
Voilà.
« Incarnatus est », et on distingue bien, effectivement, on distingue sans séparer, toujours, hein, Chalcédoine,
c'est ça, voilà.
Sans
oui,
séparer.
Oui, oui, oui. Et alors, on trouve au verset 14, hein, « par qui nous sommes rachetés ». Donc là, à mon avis, c'est mal traduit, tu disais « rédemption », oui, c'est la délivrance, en fait. On pourrait voir là... racheter, ça fait un peu mécanique, finalement. Hein. Racheter à qui ? Racheter comment, si vous voulez ? Donc, le salut, il nous serait extérieur. Non, c'est une délivrance, comme le disait Paul, qui est intérieure. Par qui nos péchés sont pardonnés ? Là, c'est du pardon. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui nous est extérieur et sur lequel nous ne participons absolument pas. Ce pardon, c'est la grâce seule, c'est l'amour de Dieu. Mais cette délivrance, cette apolutrosis, c'est ça, non ? La rédemption.
Je pense que c'est ça, justement.
C'est pas le rachat, ça, c'est du l'Anselme de Canterbury qui ressort en refoulé, moi, je crois. par exemple, dans le verset 12, il y a bien cette participation qui vous a rendu capable d'avoir part, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment.
C'est apolutrocine. Hein.
C'est cette part. Donc, ouais. Ça, c'est le verbe de la libération hors d'Égypte, finalement.
Oui.
Hein.
On est délié des. Oui, c'est ça.
C'est la libération hors d'Égypte. Dans un sens, l'impulsion de cette libération, c'est Dieu seul qui la donne. Mais ensuite, les Hébreux, pas à pas, ils doivent marcher dans le désert, suivre la nuée ardente. Il y a l'idée d'une participation de l'homme dans cette marche. Et on l'a bien, là, au verset 12, « vous a rendu capable d'avoir part », et c'est de ce salut, finalement, qu'il est question, couvre Jésus-Christ, à mon avis, voilà, hein, pour nous. Y a en même temps, mais dans l'Évangile, il y a toujours à la fois hein, cette annonce d'une grâce, disant ben, « tout est accompli, de toute façon, le royaume de Dieu est présent, il est là ». Et puis de dire, bah écoutez, ne rigolez pas dans votre façon de vous saisir de cet évangile du Christ, il y a un enjeu de vie et de mort pour vous et pour les vôtres dans le fait de cette ouverture à cette nouvelle dynamique qui est donnée en Christ.
Et c'est la foi, au fond, parce que, vous savez, on insiste souvent dans nos prédications sur le déjà-là du salut et le pas encore. Et ça peut devenir, bien sûr, comme tous les paradoxes que l'on manie, ça peut devenir une phraséologie. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est tout l'espace qui est libéré entre les deux. Et c'est la foi, c'est-à-dire qu'on peut être... dans une nuit de l'intelligence, ne pas comprendre, être révolté par des situations, être dans une épreuve, faire l'expérience. La liturgie de ce mercredi saint, c'est la trahison de Judas, donc les déceptions humaines, les désillusions sur les personnes, voilà, et avoir quand même la foi. Si vous voulez, il n'y a pas d'incompatibilité, c'est le grand mystère que beaucoup de gens ont du mal à comprendre parce que ils font dépendre la foi apparaît comme la déduction d'un certain nombre de conditions, bien sûr que non, la foi d'une certaine manière c'est pas toujours nous qui sommes les plus à même de savoir si elle est vraiment là, c'est vraiment Pascal a raison, c'est d'un autre ordre. Mais c'est, dans l'anthropologie classique, on dit que la raison a son ordre, et puis la volonté, le désir, si vous voulez, est l'ordre de la foi. En tout cas, je ne sais pas si c'est cette distinction-là qui est opérante, mais en tout cas, la foi est autre chose. C'est pour ça que les mystiques la décrivent quelquefois comme une nuit, parce que la foi est une réalité qui n'est pas conditionnée par un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses, d'ailleurs, si on est masochiste. Bon, ça, c'est autre chose. Et c'est la foi qui est quand même ce qui permet de comprendre que malgré tout le pas encore, eh bien, il y a déjà. Parce que le Christ est venu, il a marché sur nos routes, il a parlé, il a vécu de notre vie d'homme, évidemment nous n'étions pas là, mais il y a une chaîne ininterrompue qui s'est transmise jusqu'à nous, et de quel droit ? Je crois que il y a une question morale aussi dans la foi, de quel droit nous interromprions cette tradition au sens de transmission ? La modernité qui est fasciné par la table rase, a souvent considéré avec légèreté ça. Cette foi est arrivée jusqu'à nous, 2000 ans. Elle est arrivée jusqu'à nous à travers des formes peut-être qui n'étaient pas exactement les plus adéquates ou les plus satisfaisantes théologiquement, mais de fait, elle est quand même arrivée. Et donc je pense que dans la foi qui est la réponse à l'amour premier de Dieu et à la grâce, il y a une question un peu morale, et du coup l'enjeu de la transmission, c'est une obsession de notre époque, hein, sur tous les plans, c'est un débat essentiel.
Oui, ça c'est intéressant, cette idée de qu'est-ce que c'est que la foi, effectivement. Tu dis la foi, et les mystiques disent des fois qu'elle est ténèbre. Alors je crois que c'est que dans cette... les mystiques, il y a une relation à Dieu, en fait, quand même. Il y a un sentiment de la présence de Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est pas partagé tout à fait par tout le monde. Il y a des gens qui ressentent pas ça. Mais pour ceux qui le sentent, ils sont face... Je ne sais pas si on peut utiliser le mot mystère, mais comme quand on connaît vraiment quelqu'un, on n'arrive plus à le décrire en deux mots seulement, quoi. C'est-à-dire, on est devant une personne vivante que l'on connaît de multiples façons, et on connaît la richesse de la personne qui est devant. Alors que quelqu'un, bon, sur Obama, je pourrais dire deux mots sur ce qu'il est. Par contre, sur quelqu'un qui m'est très proche, c'est plus difficile, parce qu'on connaît la richesse de la personne. Donc par la foi, s'il y a une vraie relation à Dieu, ben finalement ils en restent baba et ils disent « mais je ne peux plus vous dire effectivement qui est vraiment Dieu, parce que je veux dire, tout mot à ce moment-là devient impropre, parce que j'ai bien senti qu'il est plus que ça ». Et donc il y a des mystiques, oui, comme Maître Eckhart, comme Angelus Silesius, qui restent dans ce silence.
Avec des éclipses, hein.
Avec des éclipses.
C'est difficile, c'est pas toujours gratifiant ou sensible.
Oui. Alors la foi, c'est...
Oui, vas-y. Et juste pour prolonger ce que tu dis, c'est la raison pour laquelle les églises ont fait du mariage un sacrement, en tout cas l'Église catholique, parce que dans l'alliance de l'homme et de la femme, il y a quelque chose qui est du même ordre et qui est plus qu'une image, mais qui est vraiment du même ordre, c'est-à-dire que plus on connaît l'autre, plus le mystère s'approfondit, avec quelquefois évidemment des surprises, j'imagine, mais qui le risque évidemment, c'est de ne pas pouvoir convertir la déception en... Bon, je suis très mal placé pour, évidemment, pour en parler, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un moment où on connaît tellement la personne qu'on ne peut pas l'inscrire dans un récit linéaire, parce que, et du coup, on souffre des jugements à l'emporte-pièce que la personne subit, parce qu'on dit, ben non, c'est pas ça, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, et on ne sait plus, voilà, et du coup on n'a plus besoin, le reste est silence, comme dit Hamlet. Hein.
Alors là c'est intéressant, donc la foi ça peut être cette richesse de relation de cœur à cœur avec Dieu, et tant mieux pour ceux qui peuvent le vivre, bon, avec plus ou moins d'intensité, parfois d'une manière très violente, comme Pascal, que tu évoquais, ou comme Paul, parfois d'une manière plus diffuse. Alors ceux qui ne sentent pas du tout quelque chose comme ça, c'est pas qu'ils sont handicapés ou qu'ils sont nuls ou qu'ils n'ont pas la foi. Et donc je crois qu'il faut tenir en même temps cette définition que tu donnais tout à l'heure de la foi, qui est donner sa foi, c'est-à-dire de dire ben, c'est ce chemin-là que je choisis. Et c'est pour ça que la richesse de Colossiens est intéressante. C'est que ça peut passer par une connaissance. Voilà. Il dit, voilà, on a la vraie connaissance. Et moi je crois qu'effectivement la chaîne de transmission que tu disais, c'est quand même très prosaïque, c'est on a découvert en Christ le vrai visage de Dieu, donc il y a une théologie qui se projette, un Dieu qui n'est plus le Dieu peau de vache, qui n'est plus le Dieu juge, examinateur, qui n'est plus Zeus qui foudroie ou qui se fiche du destin des hommes et qui dit bon, c'est pas très grave. Non, on découvre, il y a une connaissance de Dieu que l'on a par Jésus-Christ, il y a un Christ finalement enseignant, d'ailleurs il est représenté dans les premières églises, parfois comme un barbu qui est un Christ philosophe, qui donne cette connaissance. Et à ce moment-là, connaissant Dieu comme ça, comme étant le Créateur, comme étant, oui, quelqu'un qui nous est de toute façon et qui sera toujours entièrement favorable à notre petite personne, on peut se dire, eh bien, je lui fais confiance, c'est-à-dire je m'ouvre à ça, je recherche, je creuse dans cette direction-là, et c'est un chemin qui est peut-être plus cérébral, mais qui peut devenir vraiment existentiel aussi, et spirituel à sa façon, dans cette ouverture, cette confiance, même si on ne le ressent pas comme un cœur à cœur violent et de Bernadette Soubirou ou de je sais pas qui,
Mère Teresa,
n'avait pas justement tellement, hein, justement. On parle des doutes de Mère Teresa, moi je tire un grand coup de chapeau à cette grande dame qui dit bon, moi j'ai pas particulièrement été bouleversé par la présence de Dieu, mais à mon avis, qui oserait dire que dans la dynamique de vie de ce petit bout de bonne femme, il n'y a pas eu vraiment quelque chose de formidablement vivant, si vous voulez, hein, quelque chose qui est de l'ordre d'une résurrection, ou d'une rédemption, d'une libération, vraiment. Donc je crois qu'il peut y avoir des chemins là, hein, que nous voyons ici, l'illumination. Oui, certains sont illuminés, d'autres, ça passe par une connaissance, par un choix, par donner sa foi, par s'engager dans ce cheminement. Et à mon avis, on ne perd pas son temps, on ne perd pas ses chances que de donner sa foi dans un cheminement pareil, dans cette voie qu'inaugure le Christ. Alors ceux qui peuvent connaître l'illumination, tant mieux. Ceux qui ont à la fois l'illumination, la connaissance, cette adhésion de l'intelligence et de la vie, je veux dire, c'est formidable, il y a toutes les dimensions. Ensuite, on fait comme on peut avec ce qu'on est.
Le cardinal Newman, qu'on a beaucoup évoqué l'an dernier, parlait de la foi comme une douce lumière, gentle light, donc c'est une lumière qui n'est jamais violente, hein. Pas une lumière qui aveugle, c'est une lumière qui respecte et qui, voilà, que l'on discerne peut-être seulement comme certaines aurores.
Pour certains, c'est comme ça, oui.
Temps, voilà.
Pour certains, c'est comme ça. Pour d'autres, c'est une lumière plus vive, flash. Ça dépend des gens. On n'est pas fichus tous sur le même modèle.
Alors, voilà. La prochaine fois, pour notre dernière rencontre. Donc là, vous pourrez lire la lettre aux Hébreux parce qu'elle reprend un petit peu le thème de la filiation. Le grand prêtre est le Fils qui entre dans le temple éternel. Et nous entendrons la voix du Père qui parle.
La transfiguration.
Là, on sera dans le flash, là, puisque ce sera la transfiguration. Très bonne soirée, merci. Il y a peut-être des questions avant de partir.
Est-ce qu'il y a des questions
Merci. Et donc, très beau et fervent et paisible Triduum Pascal et très joyeuse Pâques ensuite.
Amen.